La parole est à la salle. Allez, Hamani, tu vas commencer.
Bonsoir tout le monde. Monsieur Dom n'est pas. Moi, je voudrais juste que vous nous disiez, s'il vous plaît, un petit mot sur. Quand on parle en France de massacre des harkis, on occulte, à mon avis, volontairement l'abandon. Ce terrible abandon qui a été dont a découlé un peu et on les a désarmés en plus, la précision, hein, donc c'est pas très glorieux. Donc je n'ai pas encore entendu un homme politique ou pied noir, militaire, ancien militaire, parler d'abandon, à part quelques-uns qui ont versé des larmes. Mais c'était l'abandon, et on occulte, comme beaucoup de choses d'ailleurs, l'abandon.
Absolument.
Ça, alors... C'est tout.
J'ai noté, si vous voulez bien, on va prendre deux, trois questions et ensuite je réponds brièvement à ces questions.
J'aurais voulu savoir la signification exacte du mot harki. Et ensuite, un peu parallèlement, quelles sont les motivations des enfants de harkis qui appellent justement les associations d'enfants de harkis en France, telles que les appels qui ont été faits à votre ami, quelles sont leurs motivations et quelle est la demande faite à ce moment-là?
Alors, les messages envoyés à mon ami Fatima Besnassi, ils viennent d'Algérie.
C'est ça, hein. Oui. Mais okay, quelles sont les motivations des Algériens?
Oui.
Vraisemblablement enfants de harkis, vous avez
oui,
eu
oui,
de le
tout
dire.
À fait. Oui.
Quelles sont les motivations faites aux associations françaises de harkis?
Très bien, j'ai compris. Merci. Monsieur?
Juste une question. Est-ce qu'il y a des statistiques plus ou moins précises ou fiables des harkis qui ont été pendant un certain nombre de mois ou de semestres en tôle en Algérie à partir de 1962, parce qu'il semble que ça a été assez considérable.
Très bien, j'ai noté. Et la dernière, et après je réponds, et ensuite on en prendra d'autres si il y a le monsieur qui voudra aussi.
Donc en 1962... moi, je me trouvais à Tlemcen et j'ai vu des harkis enchaînés avec des gens qui leur crachaient dessus et qui étaient, me disait-on à l'époque, envoyés pour déminer la frontière marocaine. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ces choses-là? Moi, j'avais le cœur complètement pris par cette histoire et je ne me sentais pas fière d'être française à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est connu?
Très bien. Est-ce que on s'arrête là? Je réponds à ça et bon, je vais essayer d'être rapide parce que bon, déjà, toutes vos questions, j'y réponds dans mon livre. Enfin, je vous dis ça pas pour que vous l'achetiez absolument à notre ami libraire, hein, mais toutes ces questions, je me les suis posées et j'y réponds en détail. Et d'où aussi l'épaisseur du livre, hein, parce que chaque question, c'est complexe. Ok. Donc, l'abandon des harkis, deux choses. À la fois, j'explique, alors à la suite d'autres historiens, mais j'amène quelques éléments nouveaux, qu'il y a eu effectivement une décision délibérée du général de Gaulle de tout faire pour que ces 400 000 hommes et leurs femmes et leurs enfants restent coûte que coûte en Algérie. Les motivations de Gaulle, il y en avait plusieurs. Une de ces motivations était le racisme. Je cite cette citation tristement fameuse de De Gaulle en Conseil des ministres en mai 62, lorsque Messmer, responsable des armées, lui dit « Bon, mon général, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens-là » il dit « Ah non, non, il n'est pas question qu'ils viennent en France parce que la France est de tradition chrétienne, catholique. Et si on accepte que tous ces gens-là, ces musulmans, viennent en France, moi, mon village, il va s'appeler Colombey les deux mosquées. » D'accord ? C'est de la plaisanterie à la Jean-Marie Le Pen. On est bien d'accord. Bon, malheureusement, c'est une façon de voir qui semble reprendre du terrain dans la France de 2016. Alors, à la fois, il y a abandon délibéré. Mais à la fois, et là, c'est une des découvertes de mon enquête, c'est que beaucoup de ces témoins que j'ai retrouvés se souviennent très bien que le 19 mars, le 20 mars, le 21 mars, c'est-à-dire juste après le cessez-le-feu, les accords d'Évian, en 62, le capitaine les a réunis, eux, les harkis, dans la cour de la caserne et leur a dit que ceux qui veulent partir en France lèvent le doigt. Je les inscris sur la liste. Et en fait, et ce monsieur qui venait de me raconter toute sa vie de malheur, d'être resté en Algérie, je lui ai dit, mais vous avez levé le doigt pour vous mettre sur la liste? Il m'a dit non. Non. J'étais jeune, j'avais mes parents, j'avais jamais quitté mon village. On me demande de prendre une décision en 24 heures. Parce que le capitaine, il partait le lendemain matin. Donc en 24 heures, il fallait qu'il décide du destin de sa propre vie, de celle de ses parents, en une époque très incertaine, hein, on est au printemps en 62. Bon. Et pour lui, il savait que ça voulait dire partir dans un pays étranger, où il ne parlait pas la langue, et où il n'aurait certainement pas la possibilité de revenir tous les étés au village. Okay. Et donc, voilà, c'est pour expliquer que l'histoire est complexe et qu'il y a aussi eu, de la part d'un certain nombre de harkis, un refus de partir en France, en tout cas dans les conditions qu'on proposait. Définition du mot « harki ». Madame, alors là, je ne vais pas vous le faire ce soir parce que je m'y suis plongé, parce que évidemment, en commençant ça, moi aussi, c'était un peu le brouillard. Et là, dès qu'on se met à se plonger là-dedans, on se rend compte de la complexité de ce terme. Deux idées. C'est qu'il y a son utilisation à l'époque de la guerre. Alors, à l'époque de la guerre, en fait, harki était une des cinq catégories du personnel algérien civil utilisé dans l'armée française. L'ensemble, on les appelle aussi les auxiliaires civils de l'armée française ou les supplétifs civils de l'armée française. Bon, ils ont tous un statut civil, mais ils ont des sous-statuts, des sous-catégories. Une de ces sous-catégories, c'est harki. Il y avait Mohazni, garde mobile, blablabla. Et très vite, vers 60-61, bon, très vite, on s'est mis à un peu tous les appeler du nom d'un des cinq. Bon, ça, c'est une première chose. Mais ensuite, il y a eu après la guerre. Après la guerre, finalement, que ce soit en France ou en Algérie, il y a d'autres Algériens qui ont partagé le destin de ces supplétifs. Il y a notamment les notables pro-français. Dans tous les villages, la colonisation avait réussi à se choisir ses notables, le caïd, le garde champêtre, le bachaga, qui n'ont jamais intégrer, enfin, sauf cas exceptionnel, une formation d'auxiliaire civil de l'armée française, mais qui, pour certains, sont partis en France en 62 et se sont intégrés à ce groupe social de ces rapatriés musulmans, qui est un terme de l'administration française, ce qui fait que même il y en a un d'entre eux qui a réussi à se faire considérer comme le chef des harkis en France, qui n'a jamais été harki au sens propre, c'est le Bachaga Boualem, qui était un notable, qui avait une influence très puissante sur sur les gens, un rapport un peu comme ça féodal, et qui a réussi à transporter ce rapport de féodalité en France. Bon. Et en Algérie, il y a aussi tout un nombre de gens qui n'ont jamais été véritablement auxiliaires de l'armée française, mais qui ont été vus par la population comme ayant été du côté des Français ou ayant travaillé pour les Français, bon, et qui ont subi aussi cette image, voire cette opprobre, d'être un traître. Puisque très vite, le mot « harki » a été synonyme de traître. Et il l'est tellement qu'en 2016, dans les cours de récréation des lycées algériens, quand on veut insulter un camarade qui est allé raconter au professeur la bêtise qu'on a fait, on le traite de « harki ». Bon. Ou bien quand on veut, dans le combat politique, sur la scène politique algérienne, le mot harki est très employé aujourd'hui. C'est pour insulter son adversaire politique qui a 40 ans, qui a 45 ans, qui n'était donc pas du tout né pendant la guerre. Mais on le traite de harki, sous-entendu qu'il défend ses propres intérêts et non pas l'intérêt du pays. Parmi les hommes politique français, il y en aurait beaucoup des harkis hein, dans cette définition-là. Bon, voilà, j'en dis pas plus. Les motivations de ces enfants de harkis dans les cyber qui envoient. Bon, là, c'est très clair, c'est. On veut de l'aide. Aidez-nous. Aidez-nous. Et en fait, soit ils précisent tout de suite, soit ils restent vagues, mais. Les idées sont très claires dans leur tête, c'est on entend aux actualités françaises que vous, les harkis de France, vous avez droit à plein d'argent. L'État français vous donne des millions d'euros. Donc nous, est-ce que, comme mon père était harki, il a droit aussi à tous ces euros? Bon. Et il y a d'ailleurs eu un boom. Alors ça, Fatima me l'a raconté. Au moment du vote de la loi de 2005, qui a été très célèbre pour un sous-chapitre qui est celui des bienfaits de la colonisation. Mais la loi de 2005 était beaucoup, beaucoup plus longue et il y avait un chapitre sur les harkis qui existe toujours et qui donnait à chaque famille de harkis 30 000 euros. Alors là, les messages, là, ça a explosé, là. Là, 30 000 euros, bon, OK. Il y a ça. Et la deuxième demande, c'est le visa pour la France. C'est, parce que, bon, tous les jeunes en Algérie, enfin, quand on est entre 20 et 40 ans, la vie est tellement chiante et sans avenir. Bon, je caricature un peu, hein, bon, le rêve. Et là, Les mecs entre 20 et 40 ans, ils se disent, putain, mais moi, toute mon enfance, j'ai caché que mon père ou mon grand-père, c'était un harki parce que c'est la honte et tout. Bon. Mais là, j'ai une carte à jouer. Et là, ils écrivent à Nicolas Sarkozy, ils écrivent à François Hollande, et ils disent, bon, je sais bien que vous ne pouvez pas accueillir tous les jeunes Algériens qui, de mon âge, de ma génération, qui veulent aller en France, mais moi, mon père, c'est un harki, alors moi, j'ai droit à un visa. Bon, ils ont droit à rien du tout, J'ai une étude très détaillée sur ce que dit la loi française vis-à-vis des harkis en Algérie. En gros, c'est vous avez droit à rien. OK. Les statistiques sur les prisons. Alors, là, j'ai tout un chapitre. C'était monsieur... Monsieur. J'ai en effet tout un chapitre parce que en 62, donc, il y a eu un certain nombre d'assassinats, j'en parle, dans chaque village, etc. Et sinon, les autres qui n'ont pas été tués, c'est pas pour autant qu'on les a accueillis à bras ouverts, on s'embrasse, on oublie tout. Non, il y a eu un certain nombre de formes de répression. Alors, il y a eu des violences physiques, mais qui n'allaient pas jusqu'à la mort. Et sinon, il y a eu plein de formes de relégation sociale, etc. Bon, je détaille tout ça dans mon livre. Et sinon, pour un petit groupe dont on a à peu près les chiffres, on va dire c'est entre 7000 fourchettes basses et 15000 fourchettes hautes. Ils ont été envoyés en prison. J'en ai d'ailleurs rencontré un, c'est le type de près de Agbou. Là, il se trouve que Fatima Besnassi Lankou a consacré son dernier livre sur les harkis mis en prison. Bon, elle a malheureusement titré « Les harkis envoyés à la mort ». C'est le titre de son dernier livre. En fait... Non, elle parle des harkis envoyés en prison qui, eux, ensuite, sont sortis de prison sans être tués. Par contre, et là je glisse, il y a un tout petit chapitre, et je le reprends là avec des nouveaux éléments, de ceux qui ont été envoyés au déminage. Puisque votre témoignage correspond tout à fait à la réalité, il y a eu une utilisation de... certainement plusieurs milliers de harkis, donc prisonniers par les nouvelles autorités en 62, qui ont été envoyés au déminage sur les deux frontières, la frontière marocaine et la frontière tunisienne. La France, qui avait ultraminé ces deux zones, est partie en refusant de laisser le plan des mines. Et en fait, ça fait pendant 45 ans que les habitants des villages à l'ouest de Tlemcen, Mahniya, et les habitants des villages de Soukaras, du côté de la Tunisie, continuaient à mourir, se faire amputer, etc. Bon, je crois que la France a fini par livrer... ces foutus plans il y a une petite dizaine d'années. Bon, ça c'est en effet une réalité dont on connaît peu de choses. Il y a un document de la Croix-Rouge internationale à Genève que Fatima cite dans son dernier livre, où en passant, le délégué de la Croix-Rouge lâche le chiffre de 20 000. Mais sans dire d'où ça vient, bon. Donc c'est un chiffre à manier avec une extrême prudence. Bon, on n'en sait pas beaucoup, on n'en sait pas beaucoup là-dessus. C'était la dernière question. On peut passer encore à un nouveau lot de questions. Et il y avait monsieur qui est ici... À ta gauche, il avait le... Bon, alors ça sera vous après. Hein. C'est ce monsieur-là, ça faisait longtemps qu'il avait levé. Allez-y. Et puis après, on arrête. C'est le dernier tour. Allez-y.
Alors, vous nous disiez que depuis 2010, donc, avec la mesure du Conseil d'État, à l'ambassade de France à Alger, il y avait pas mal d'anciens harkis qui venaient se déclarer... par rapport à la pension qu'ils pouvaient espérer obtenir.
Oui.
Je suppose que les services de l'ambassade ne doivent pas l'accorder comme ça à tout demandeur. Quel type de vérification peut-il y avoir par rapport à ça.
Très bien. Je note. Ici.
Alors, c'est deux questions à vous poser, mais c'est des questions bien candides. Vous avez parlé de massacre. J'ai entendu un monsieur qui a parlé de la vengeance. Est-ce que, après la libération de l'Algérie, les acquis qui se sont restés et qui s'étaient restés en Algérie, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est pas une, comme dirais-je, un règlement de compte entre le vaincu et les vaincus et les vainqueurs? Bon, est-ce que la France s'en est occupée pour négocier, comme dirais-je, le futur de ceux qui ont collaboré avec la France, et comment ils seront traités? Est-ce qu'ils viendront en France? Est-ce qu'ils restent là? Est-ce que les vainqueurs vont respecter tout ça? Est-ce que la France a négocié ou non? Ou encore la France les a laissés se débrouiller? Donc, est-ce qu'il y aura la question qu'on appelle de règlement de compte? Comme exactement en France, après la libération de la France, il y a aussi des règlements de
compte. Très bien, très bien.
Ça, c'est la première question.
Oui.
La deuxième question, puisque hier, on a eu une colloque sur les anciens, c'était les Algériens, les premiers Algériens, et ensuite qui passent sous la colonisation romaine. Et ces Algériens, on appelle les Berbères. Alors, je voudrais savoir, est-ce que les Arquis, ce sont aussi des Berbères, une tribu des Berbères. Voilà. Voilà mes deux questions.
Bon, alors, vous êtes comme moi, vous êtes un faux candide, parce que vous posez d'excellentes questions. Allez-y.
Très vite, je voulais juste avoir une précision sur l'emprisonnement. Est-ce qu'il y a des statistiques sur quel a été l'emprisonnement moyen des harkis après l'indépendance?
La durée, vous voulez dire?
Oui, la durée. Ils sont restés un an, 3 ans, 5 ans. Et après, je me demandais par rapport au parcours des gens que vous avez interrogés et par rapport à la confidentialité ou pas, avant de lire votre livre, comment ils sont traités dans le livre? Est-ce qu'ils ont demandé une confidentialité? J'imagine que parfois vous citez un village. Si vous citez un village de 50 habitants et que vous parlez d'un harki, forcément on peut retrouver. Voilà, comment vous avez traité ça? Et après, je m'interrogeais sur comment vous avez justifié votre voyage auprès des autorités algériennes. Finalement, vous ne l'avez pas dit. Voilà. Juste savoir ce que vous leur avez raconté pour pouvoir y entrer.
Merci. Vous êtes assez nombreux, donc je vous demande de faire vite.
Je rebondis un peu sur le mot berbère qui a été utilisé, et très souvent on ne lui accorde pas la signification qu'il doit avoir. Il n'y a que des berbères en Afrique du Nord, qu'ils s'appellent Bachaga Boualem ou Amirouche. Et ma question initiale est donc, les Harkis étaient tous des berbères? Ma question, c'est si on regarde ici les jeunes à l'emploi pour etc etc, on leur demande pas du tout et on s'en fout, excusez le terme, qu'ils soient enfants de Harki ou pas.
Monsieur, ensuite la dame et on s'arrêtera. Et
mais moi je
l'avantage de la jeunesse.
Je ne sais pas si ma question rentre dans le cadre de cette soirée. Moi, mon père était séfarade, juif, et il a été orphelin. Moi, j'aurais aimé aujourd'hui aller en Algérie. Ça fait plusieurs années que j'ai cette idée-là, et j'ai un cousin éloigné. Juif, plutôt type sioniste, qui m'a dit « Oh, ne va surtout pas en Algérie, les Juifs, tu vas te faire décapiter, etc. Va plutôt en Israël, etc. » Moi, ça fait pas partie peut-être du... Mais j'aimerais, vous qui connaissez, que vous me disiez si je peux aller en Algérie ou pas, si je vais me faire décapiter ou pas.
Ok, ok, je vais vous répondre.
Rapidement une parenthèse, Pierre. Samedi, on a eu une soirée musique raï. Et on avait un chercheur algérien qui est venu de l'Université d'Oran, c'est un anthropologue qui travaille sur le patrimoine immatériel, et qui nous a raconté l'histoire des musiques, disons, de l'Ouest algérien, du raï, etc. Et qui a parlé en long et en large de l'apport des musiciens juifs, de leur contribution et de la nostalgie qui existe encore par rapport à ces grands chanteurs qui ont beaucoup apporté et qui étaient juifs. Donc, il n'y a aucun souci, je pense. Après, Pierre alors, aussi a son avis.
Non, mais ça, ouais, ça c'est le passé, hein, parce que là... Bon, allez, madame et le jeune homme, et après, Khlas.
J'ai lu très récemment que les enfants descendants de harkis en Algérie avaient encore des difficultés, soit pour faire des études supérieures, avoir des bourses, qu'il y avait des distinctions qui étaient faites. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Très bien.
On va clôturer avec.
Oui. Très, très courte question, peut-être idiote. Il y a eu la révolution agraire. Bon, c'était tous des paysans à l'origine. Et... comment est-ce qu'ils sont... À partir de la révolution agraire, il y a eu constitution de coopératives et donc une promotion d'un certain nombre de gens. Est-ce qu'il y a des harkis qui ont été en quelque sorte repromus ou bien est-ce qu'ils sont continués à ressembler aux murailles? Voilà.
Merci.
The last.
Merci et merci de m'avoir qualifié de jeune. Ça fait toujours plaisir à 35 ans, ça fait toujours plaisir. Alors contrairement à vous, moi je suis par contre un vrai prof d'histoire géo. Et alors vous avez parlé des harkis et du fait qu'on les avait balancés du haut de falaise. Ça leur arrivait même parfois de se prendre une balle dans la tête. Et je peux vous assurer que se faire balancer d'une falaise et se prendre une balle dans la tête pour un harki, c'était s'estimer heureux. Parce que quand on lit les bouquins de Benjamin Stora et d'autres historiens, c'est encore pire. Alors je sais qu'on va manger bientôt, donc je vais éviter de dire ce qui se passait. Mais bon, en gros, il y en a qui se faisaient arracher la langue, hein, si ce n'est plus. Hein. Voilà. Donc juste une question, j'aurais voulu savoir, une fois que la guerre est terminée en 62, les harkis, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent dans la clandestinité, certainement. Mais comment? Comment ça se passe? C'est ce que je voudrais savoir, en fait. Voilà.
Bien. On s'arrête là, parce que là, il y a... Bon. Alors, là, je vais aller très vite. Il va y avoir des frustrations, je vous le dis tout de suite. Mais en même temps, excusez-moi de le dire, mais tout est dans mon livre. Mais c'est pas... C'est... Enfin, bon... Bon, heureusement, elle a pris deux caisses de livres. Les demandes de cartes de combattants au titre de harkis sont extrêmement vérifiées. Elles sont vérifiées d'ailleurs à Paris. Il faut constituer un dossier, etc. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce chiffre de 60 000 est une correspond qu'à la fourchette très très basse de la réalité, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont refusés, notamment pour cette raison à la fois simple et tragique, que quand vous déposez un dossier 54 ans plus tard, il faut qu'il y ait un document, hein, c'est attestant. L'administration française, comme d'autres administrations, ne fonctionne que sur documents. Or, quand on est un ancien harki et qu'on a décidé de rester en Algérie, la moindre des choses, c'est de brûler tous ces documents, hein, parce qu'on ne va pas garder ça à la maison. Et ensuite, et là j'en parle en détail, sur les archives de l'armée française qui concernent les 5 catégories d'auxiliaires civils de l'armée française. En gros, ces archives étaient très mal tenues au moment des faits, et ensuite elles ont été très mal conservées. Ce qui fait que dans les demandes de ceux qui sont venus en France, il y a une demande sur deux où, en fait, le document qui est accepté par l'ONAC, c'est une attestation sur l'honneur du lieutenant français qui dit « Oui, ce monsieur-là, qui est en face de moi, parce qu'il est venu en France, et donc ils vont ensemble au bureau de l'ONAC, le lieutenant français ou le capitaine dit « Oui, lui, il était dans ma ARCA. » Bon, et ça compte. Les vieux monsieur, aujourd'hui, en Algérie, ils ne peuvent plus... enfin, bon. Et donc, il y a beaucoup de dossiers qui sont refusés. Vengeance, règlement de compte. Alors, voilà, ça encore. Je vous ai dit, dans chaque village, il y avait 0, 1, 2 ou 3 morts sur 15, 20 bonhommes. Et les vieux témoins se souvenaient très bien des circonstances de la mort. Bon, et donc, moi, je les interrogeais aussi sur les raisons. Pourquoi c'est lui qui s'est fait zigouiller et c'est pas l'autre? Pourquoi c'est lui qui a pris une balle dans la tête, comme vous dites, monsieur? Pourquoi c'est lui qui s'est fait torturer jusqu'à la mort et pas l'autre? Bon, et là, il y a un certain nombre de cas où les choses sont claires. On va dire, quand un harki a été vu pendant qu'il portait l'uniforme français, en train de participer à des séances de torture ou participer à des séances de viol de villageoises, là, soit il avait réussi en effet à partir en France, soit il avait quand même peu de chances de passer, de rester vivant. Même si, et alors là, ça a été ma surprise, je suis tombé sur des témoins qui, en fait, m'ont dit que oui, ils avaient torturé. Mais c'est là aussi la complexité des choses, c'est que si vous aviez été nommé dans une caserne à plus de 30 km de votre village d'origine, eh bien, vous revenez en 62 dans votre village, eh bien, les villageois de votre village, ils ne savent pas ce que vous avez fait à 30 km. Bon, bref. Mais la réalité des choses n'est pas aussi simple et manichéenne. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de types qui se sont fait tuer qui n'avaient jamais torturé, jamais violé. D'accord? Et là, alors, bon, je raconte ce qui s'est passé dans les villages. Il y a eu notamment ces scènes que madame évoquait où il y a, pendant quelques jours, pendant une semaine, trois semaines, une espèce de d'effervescence villageoise où on a envie de cracher à la gueule des harkis, des armées. Bon, c'est pas parce que c'est lui ou non, c'est juste qu'il a été harki, on le crache, alors on le tape, il y en a qui veulent taper plus fort que d'autres. Bon, il y a aussi des phénomènes irrationnels, on va dire. Bon, il y a aussi le phénomène du martien. C'est-à-dire, ça, c'est l'Algérien qui n'a pas du tout été un héros, qui n'est pas du tout monté au maquis, mais qui, le 19 mars 62, quand c'est le cessez-feu, alors là, il se découvre Mujahid, le héros qui va chasser l'affreux colonisateur français. Et donc, les Algériens, qui connaissent très bien le phénomène, ils les appellent les martiens. Pour le mois de mars 62. Bon. Et là, quoi de plus héroïque pour montrer son immense courage que de tuer un harki désarmé devant l'ensemble du village. Bon. Etc. Etc. Voilà. Moi, je montre la complexité des situations possibles. Bon. Le rôle de la France à ce moment-là, j'en parle aussi. En gros, mais là, c'est tout est dans les détails dans mon livre. En gros, à ce moment-là, au début de l'Algérie algérienne, la France, quand elle parle au Aben Bella, elle lui parle que des pieds noirs. Elle s'intéresse qu'aux pieds noirs. À la sécurité des pieds noirs, aux immeubles des pieds noirs, aux biens des pieds noirs, que les pieds noirs. Les harkis, elle s'en fout. Je simplifie, mais là, je donne les preuves, je vais dans les détails. J'avance. Alors, les harkis berbères, pas berbère. Vous voyez que dès qu'on prononce le mot berbère, ça... Bon, on ouvre un immense débat. On va dire que il existait à l'époque, il existe toujours en Algérie, des populations arabophones et des populations berbérophones qui parlent une des nombreuses variantes du Tamazight. D'accord ? Donc une des variantes est le kabyle, une autre est le chaoui dans les Aurès, une autre du côté de Cherchel, etc., etc. Bon. Longtemps, l'administration française a essayé de véhiculer le mythe que les berbérophones, en particulier les kabyles, c'était les gentils Algériens, pro-français, tout ça, contre les méchants arabophones. Et, bon, bref, aujourd'hui, en Algérie, on peut entendre une espèce de surenchère, évidemment complètement idiote, hein, comme toute surenchère sur les origines, sur les machins, où des gens disent... Nous, les Kabyles, on a été beaucoup plus pour la révolution et l'indépendance que vous, les Arabes, qui ont été tous des harkis. Ou inversement. Bon, c'est du délire complet. Il y a une répartition à peu près homogène sur le territoire d'Algériens qui ont travaillé pour l'armée française, pour aller vite. OK. La durée des emprisonnements, donc je donne la liste de toutes les prisons. Ensuite, les emprisonnements ont été à durée variable en fonction des prisons. Un élément important est aussi l'action de la Croix-Rouge internationale qui est venue en Algérie à partir de 1963 et qui a eu le droit de visiter les prisons. Bon, en gros, les durées, c'est entre un an et... 7 ans, donc c'est jusqu'en 69, où là, les derniers prisonniers harkis ont été libérés. Je précise qu'à la sortie de prison, ils avaient le choix, sous contrôle de la Croix-Rouge internationale, de retourner dans leur village en Algérie ou de partir en France. Eh bien, la majorité a décidé de retourner dans son village en Algérie. Bon, ça fait partie de toute cette complexité de l'histoire sur laquelle je reviens un peu. Confidentialité. Oui, confidentialité de mes témoins. Alors, bien sûr, à chaque fois, je ne sais plus qui a posé la question.
C'est Serge.
C'est qui, Serge ? Ah, voilà, c'est Serge. Confidentialité. Oui, à chaque fois, enfin, dès les premiers échanges... souvent par email avec le fils, etc. Je disais que, bien évidemment, j'obéirai à toutes leurs exigences de confidentialité. Et donc, bon, c'était à chaque fois un sujet de discussion avec mon témoin. Je rapporte ça dans la partie témoignage. En gros, il y a une grande majorité qui a demandé qu'on change le nom. D'accord ? Le nom et le prénom. Mais j'avais le droit de laisser le village. D'accord ? Bon. Oui, et j'avais le droit de prendre en photo aussi. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, j'étais pas censé les envoyer à la police algérienne, ces photos, et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, ni de les publier. Là, je les utilise comme ça, en continu. Alors, bon, il faudrait vraiment qu'il y ait un... Bon, mais non, on va dire que ça va. Et voilà. Par contre, j'en ai quelques-uns qui, à l'inverse, m'ont dit « Non, moi, je veux que vous mettiez mon nom, mon prénom. Ça fait 50 ans que je me cache, ça fait 50 ans que je souffre là, j'en ai marre. Je veux que ça éclate. Et d'ailleurs, je suis très content que vous fassiez votre livre. Il faut que cette histoire se finisse. Justification de mon voyage aux autorités algériennes. Donc, ben, à chaque fois, je trouvais un nouveau zama mensonge. Le tourisme, on va y venir, mais l'Algérie, il faut y aller, hein, c'est un pays passionnant, c'est le seul pays, je crois, à une heure d'avion de la France, qui ne soit pas pourri par le tourisme. Je veux dire, vous allez en Turquie, est-ce que vous voyez la vraie Turquie ? Vous allez au Maroc, est-ce que vous voyez le vrai Maroc ? Non. En Algérie, c'est presque un miracle. On voit le vrai pays, les vrais gens. Et ça, je dois dire, enfin, c'est très, très appréciable. Et d'ailleurs, j'en viens au monsieur issu d'une famille juive d'Algérie, alors, où vous avez dit séfarade, c'est l'Algérie, hein ? Bon. Alors, je peux en parler des heures,
non.
Mais je ne le ferai pas. Bon, aucun risque, aucun, ok. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, parce que, en fait, là, votre question concernerait plus mon ouvrage précédent sur les pieds noirs restés en Algérie, qui est sorti il y a 4 ans. Et là, j'ai donné plein de conférences en France. Et là, j'avais beaucoup d'enfants de pieds noirs, comme vous, qui étaient d'assistance. Alors, soit enfants issus des 850 000 pieds noirs européens, on va dire, c'est-à-dire en gros pas juifs, et ou issus des 150 000 pieds noirs juifs d'Algérie, puisque 850 000 plus 150 000, ça fait 1 million de pieds noirs. Bon, ensuite, il y en a qui disent non, moi, je suis pas pied noir, je suis juif, alors les juifs sont pas pieds noirs. Bon, alors, ensuite, chacun donne sa définition. Moi, je trouve que chacun est libre de dire ce qu'il est. Bon, moi, je connais des pieds noirs espagnols qui disent « Ah non, moi je ne suis pas pied noir ». Bon, je connais des pieds noirs juifs qui disent « Ah non, moi je ne suis pas pied noir, les pieds noirs c'est les autres ». Bon, mais je connais aussi l'inverse. Bref, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Et donc, et à chaque fois, c'était des enfants de votre génération comme ça qui vivent avec leurs parents qui depuis 50 ans leur disent « Mon fils, non, l'Algérie, il ne faut pas y aller, ils vont te couper la tête, etc. » Et puis, il y en a, en plus, qui rajoutent, et en plus, moi, je suis d'une famille juive, alors là, avec Israël, la Palestine, bon. Et en fait, une fois, à Bergerac, là, j'étais dans un truc comme ça, à la fin, il y a Maurice Bénichou, je crois, qui vient me voir et qui me dit, j'ai 53 ans, il est né à Alger, il est parti, il avait un an, tout ça. Bon. 6 mois plus tard, nous partions ensemble, Maurice et moi. Le Maurice, il avait 53 ans, il m'a dit, je ne l'ai pas dit à mes parents, ils m'auraient interdit. À 53 ans, il est parti en secret de ses parents, avec moi, dans l'avion, il tremblait comme une feuille. Je l'ai emmené partout en disant à tous les gens, attention, c'est pas juste un pied noir normal, hein, c'est un juif. Hein, c'est un juif. Mais bon, je vous donne son numéro, il vous dira. Ok. Il a failli ne pas revenir. Il voulait rester. Il voulait rester. Difficulté pour les enfants de Harki, oui. 1000 fois oui. Alors là, j'en parle énormément. 50 ans plus tard, la stigmatisation continue. Hein, avec, on va dire, dans cette Algérie où tout s'obtient plus ou moins par piston. Il faut des relations, d'accord, pour un logement, pour un boulot, etc. Bon. Et donc, quand ceux qui ont les meilleures relations, c'est les enfants de Moudjahidine. Hein, ça, là, c'est le top du top. Bon. Ou bien, si votre papa, il a été militaire, même si, bon, ah, militaire, c'est terrible. Or, par définition, ceux qui ne peuvent pas avoir un papa ancien moudjahine ou ancien militaire, c'est les enfants de Harki. Bon, et donc eux, dans la compétition au piston, eux, ils partent 3 km en arrière. Etc., etc. Sur la question de la révolution agraire, qui était un peu technique, parce que la révolution agraire, si je ne me trompe pas, c'est 75. Hein. Là, en vérité, le phénomène principal qui s'est passé, c'est la collectivisation des fermes dès la libération. D'accord ? Donc on est en 62... Les affreux colons comme Alain Lopez quittent leur domaine de 100 hectares où tes parents en avaient 100 ou 500 putain il va partir au quart de tour, voilà, là ça va chauffer là, vas-y Alain, vas-y, dis la vérité, vas-y.
Oh, écoute, voilà, moi je suis un citoyen qui est né en Algérie. Je ne revendique pas le mot de colon. Voilà. Parce que mon père était un petit fellah. On lui a octroyé dans les années justement 54, il y avait une concession du gouvernement français pour le franc symbolique. Il octroyait des terres aux pieds-noirs qui voulaient s'installer dans l'agriculture. Mon père a profité de l'occasion, il a eu 100 hectares. Vous allez dire 100 hectares, c'est beaucoup. Mais ça, dans la plaine du Cerceau, là-bas, Toussnina, dans les contreforts de la forêt de Frenda, le Rabat et Al-Ajdar, il n'y a rien qui poussait. Et avec les moutons, tout juste, ils arrivaient à packager, et après, il fallait qu'ils partent en transhumance. Alors voilà, c'est pour ça que je dis qu'Alain Colon, non. Il y a un copain que j'aimerais bien, mais il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Bon, là allez, il n'est pas là. Stop, voilà.
Non, non, allez. Voilà. Non,
c'est fini.
Bon, c'était allez. Une petite pique pleine d'affection. Pleine d'affection. Et donc, je reviens là, et puis ensuite on va s'arrêter là. En 62, quand les gros colons, les vrais, pas du tout la famille de Alain, quittent leurs immenses propriétés dans le nord du pays, elles sont collectivisées, et là, on met à la tête, c'est naturel, on met un type qui descend des maquis, qui s'est battu pour libérer son pays de façon très courageuse, bon, et on le nomme directeur d'une ferme collective, d'accord ? Et là, ce type-là a le pouvoir d'embaucher ces masses paysannes qui crèvent de faim. Bon, et là, c'est grâce à ces premières embauches et à ces fermes que non seulement la famine va être évitée dans les années 62, 63, 64, mais que cette masse paysanne qui crevait de misère depuis la nuit des temps va peu à peu pouvoir sortir de sa misère. Et dans ce phénomène social sur le temps assez long, et ben là, les harkis vont être exclus de ce phénomène, puisque quand ils se pointaient devant le directeur d'une nouvelle ferme collectivisée en disant ben, moi aussi je crève de faim comme les autres, le directeur se renseignait auprès dans le village, il apprenait que c'était un ancien harki et disait non, retourne chez toi, je vais pas te tuer. Mais ce n'est pas moi qui vais te donner du travail. Bien.